62e anniversaire du débarquement, vous l'avez sans doute remarqué, le jazz avait débarqué lui aussi il y a 62 ans avec les troupes américaines. Pour le 50e anniversaire, si on s'en souvient bien, nous en 1994, donc nous avions réalisé une émission en direct avec la participation de Sim Coppens. Sim Coppens, pour ceux et celles qui l'ignoraient encore, c'était le précurseur, le créateur des émissions de jazz sur la radio française, sur Paris Inter, dès sa création de Paris Inter en l'occurrence. Il le racontera d'ailleurs lui-même dans ce que nous allons écouter. Et mon vieil ami Sim Coppens nous a quittés en 2002. Il ne pouvait donc pas revenir pour ce 62e anniversaire. Alors, du coup, nous avons choisi de rediffuser cette émission réalisée en direct ce 1er juin 1994. Nous écoutions donc In the Mood, composition de Joe Garland, jouée par l'orchestre de Glenn Miller, un peu l'hymne de cette libération. Et Sim Coppens ici débarquait en Normandie, bien après évidemment les troupes américaines, après le 6 juin. Il va nous raconter, il va nous expliquer pourquoi il avait été choisi par l'armée américaine et pourquoi il avait orienté un tout petit peu son camion, puisqu'il y avait un camion, vers le jazz.
Et je n'étais pas soldat, j'étais un civil, professeur à l'Université de Columbia, qui avait été volontaire de partir en Angleterre et ensuite en France. On cherchait des gens bilingues, j'avais la chance de l'être. Et j'ai débarqué, je suis parti d'Angleterre début juin, peu de temps après le 6 juin. Nous sommes restés, il faisait très mauvais, très longtemps sur la Manche. Et j'ai débarqué près de Saint-Laurent-sur-Mer, Omaha Beach, bien sûr, vers entre le 20 et le 25 juin. Je n'étais pas combattant. J'avais un rôle très particulier. Comme vous le savez sans doute tous, les Allemands avaient confisqué en Normandie les postes de radio dès 1943. Et il était très important de rassurer les habitants des villes libérées des Allemands. Ce qui se passait dans le monde, c'était mon rôle. J'ai débarqué avec un camion sonorisé qui était en quelque sorte un petit studio de radio ambulant. J'avais tout ce qu'il fallait pour écouter les radios, pour faire des émissions. J'avais un micro, j'avais un pick-up, j'avais des disques. On y arrivera dans un instant. Et quand j'arrivais dans une ville libérée, comme Valognes par exemple, je me stationnais dans la place principale. Je jouais de la musique, des marches militaires, un peu de jazz. Je me souviens pas très bien si c'était Benny Goodman ou Glenn Miller. Et par curiosité, les gens venaient pour la première fois et je faisais une émission de 5 à 10 minutes d'information. Ensuite, bien sûr, j'étais entouré des gens qui posaient un tas de questions. Je dois dire que dans les premières journées, on me demandait souvent des nouvelles de quand. Je n'avais pas de très bonnes nouvelles de quand, fin juin. ça arrivait, et je me souviens tellement bien quand j'ai pu annoncer pour la première fois, je crois que c'était le 9 juillet, que Caen était enfin libéré. Les gens réclamaient la Marseillaise, et j'ai relu récemment dans les lettres que j'ai écrites à ma femme que quand j'ai joué à la Marseillaise, quand j'ai annoncé la libération de Caen, la plupart des gens pleuraient dans la rue. Alors, je ne sais pas si la musique jouait un rôle principal. La musique que je jouais, c'était pour faire connaître ma présence avec ce que les gens appelaient ma radio, qui était bien sûr un camion. En relisant récemment les lettres que j'ai écrites à ma femme, j'ai constaté que quand même la musique jouait un rôle, parce que à plusieurs reprises j'écrivais à ma femme: « Ah, ce soir j'ai dîné dans la cantine de tel régiment de l'armée américaine, on m'a réclamé de la musique et je leur ai fait la joie de faire un concert de jazz. » Voilà, donc le jazz a commencé là, pas loin de Omaha Beach, dès fin juin, début juillet 1944.
Ce jour-là, le 1er juin 1994, en même temps que Sim Coppens, nous avions invité Daniel Nevers pour parler un petit peu de cette période. Non pas que Daniel ait vécu directement cette période, mais en tant qu'historien, il avait quelque chose à nous dire. Et en particulier, il nous parle des enregistrements réalisés par Glenn Miller à cette époque. Et Glenn Miller était major dans l'armée américaine. Il va nous dire un peu comment Glenn Miller envisageait les nouvelles marches militaires.
Eh bien, cet orchestre que Glenn Miller dirigeait à partir du moment où il est entré dans l'armée l'armée de l'air, d'ailleurs, était totalement différent de celui qu'il avait dans le civil quelque temps auparavant. Parmi les musiciens qu'on retrouvera d'abord aux États-Unis, ensuite en Angleterre et puis en France, sans leur chef, puisqu'il a disparu au-dessus de la Manche, il y avait le batteur Ray McKinley, le pianiste Mel Powell, le trompettiste Bernie Previn, le clarinettiste Peanut Soko, qui étaient tous, évidemment, militaires à ce moment-là, et qui, n'ayant pas le même grade que Glenn Miller, pouvait jouer, alors que lui, qui était tromboniste normalement, n'avait que le droit de diriger l'orchestre sans se mêler à la formation. Ces enregistrements de radio ont été réalisés avant leur départ des États-Unis, c'est-à-dire en 1943 et début 1944, avant qu'ils ne viennent en Angleterre.
Mais le major Glenn Miller avait quelques idées sur la diffusion du jazz d'abord, sur une idée patriotique aussi peut-être.
De toute façon, il s'est engagé dans l'armée des États-Unis alors qu'il avait été réformé pour mauvaise vue. Il a insisté pour qu'on l'engage quand même, ce qui a fini par être fait, évidemment, dans un corps musical. Il n'a pas été réellement combattant, ce qui ne l'a pas empêché tout de même de mourir au-dessus de la Manche dans les derniers jours de 1944, lorsqu'il venait de Londres à Paris pour diriger l'orchestre à l'Opéra. Il avait aussi quelques idées effectivement musicales quant aux morceaux à interpréter. Ce Stardust n'en est pas tout à fait la preuve, mais dans d'autres cas, par exemple, on avait adapté Saint Louis Blues en marche. C'était devenu le Saint Louis Blues marche. Et lorsqu'évidemment ses supérieurs lui ont fait remarquer que c'était peut-être un peu curieux, ce genre de marche sur des thèmes de jazz, il leur a répondu que dans l'armée de l'air, il serait bizarre de voler en 1943-44 sur les mêmes avions qu'on utilisait en 1917-18. Eh bien, là, les hommes devaient marcher sur des morceaux plus modernes, plus nouveaux que ceux de la guerre précédente.
Nous écoutions donc le thème arrangé par Glenn Miller, intitulé Saint Louis Blues March, dont nous parlait Daniel Levert, en même temps que In the Mood. On va écouter une autre version ensuite de In the Mood, puisqu'il y en a eu plusieurs. Mais d'abord, nous avions demandé à Sim Coppens comment il avait été reçu avec son camion en forme de studio.
Eh bien, contrairement à ce qu'on pourrait penser, les réactions des Français que j'ai vu, et puisque j'ai fait des milliers de kilomètres, littéralement des milliers de kilomètres, à travers tous les villages libérés, les petites villes, les grandes villes en Normandie, la première réaction des Français était unanimement un soulagement. Ils me disaient, maintenant on peut dire ce qu'on a envie de dire, on peut penser ce qu'on a envie de penser, on se sent libre. J'ai jamais rencontré, c'est venu peut-être un peu plus tard, des réactions désirables devant les destructions, car, comme je disais tout à l'heure, j'avais un camion sonorisé pour donner les informations. Dès qu'un village, une ville était libérée, souvent je ne trouvais personne dans cette ville libérée. Et quand je suis entré à Saint-Lô, il n'était pas question de donner des informations à Saint-Lô. La seule route qui existait à Saint-Lô, c'était une route que les bulldozers avaient tracée pour traverser la ville. Mon souvenir le plus tragique de tous ces mois en Normandie était de rentrer, traverser Saint-Lô au clair de lune. C'était vraiment un souvenir qu'on ne peut pas... Alors, non seulement ça, mais l'hospitalité... Combien de fois on m'obligeait à prendre, moi qui mangeais bien dans l'armée américaine, on m'obligeait à partir avec 6 œufs frais pondus ce jour-là par les poules du propriétaire. Alors j'ai gardé un souvenir extraordinaire. J'ai jamais entendu à cette époque le moindre ressentiment devant la destruction de beaucoup de villes et de villages. Je dis, on peut respirer, on peut parler librement. C'était la réaction que j'ai eue.
Thank you.
On écoutait donc une nouvelle version de In the Mood, une version enregistrée par Glenn Miller en 1943 ou 44, on ne sait pas trop d'ailleurs, de la même façon que le St. Louis Blues March est daté de la même période qu'on entendait précédemment. Alors on a poursuivi la conversation avec Daniel Nevers et Sim Coppens pour essayer d'exprimer le fait que In the Mood représentait bien l'espèce d'indicatif important de cette libération de la France ce 6 juin 1944 et la suite.
Que Glenn Miller donc est mort en 44 et que l'orchestre de Glenn Miller a continué à exister encore pendant des années et des années, des décennies, avec toujours le même répertoire, dont bien entendu St. Louis Blues March, qui continuait à être joué jusque dans les années 80, toujours de la même manière, selon le même arrangement, et aussi bien sûr In the Mood, qui n'était pas l'indicatif de l'orchestre, qu'on attribue à Glenn Miller comme compositeur, alors que il n'a fait que reprendre un thème qui avait été écrit à partir d'un certain nombre d'autres morceaux déjà préexistants et signé par un musicien noir, un saxophoniste noir, Joe Garland, qui jouait dans l'orchestre d'Edgar Rice en 1938, avec lequel d'ailleurs il avait enregistré ce morceau pour la première fois sous ce titre, mais c'était déjà une série de riffs qui existaient dans d'autres morceaux qu'il avait collés ensemble. Et Glenn Miller s'est avisé en 1939, alors que son orchestre était encore tout jeune, que c'était un morceau vraiment très intéressant, l'a repris, l'a fait réarranger, l'a mis à son répertoire, l'a enregistré, c'est devenu un immense succès. Si c'était resté dans le cadre de l'orchestre noir d'Edgar Rice, ça serait presque passé inaperçu, on peut le dire. Et par la suite, ce disque a été publié naturellement en 1939 en Angleterre, et la matrice est arrivée en France en 1940, c'est une des dernières qui soit arrivée juste avant la débâcle de 1940. En avril 1940, normalement il devait être édité en mai ou juin. On a dû attendre le mois de novembre ou décembre 40 pour qu'il sorte en édition française, couplé avec un enregistrement de Tommy Dorsey d'ailleurs. Et le disque est resté au catalogue en toute l'année 41, a été retiré en 42 et y est revenu après le débarquement en 44.
Deux petites remarques. In the Mood était certainement dans les années 40 aux États-Unis le morceau le plus joué. Ma femme se souvient des années 40 sur la plage de Stamford, Connecticut, qu'on entendait tout l'après-midi, on jouait, on rejouait In the Mood. Et moi, deuxième commentaire, c'est un des disques de Glenn Miller que je jouais souvent en Normandie en juin et juillet 1944.
Everybody's waiting for tomorrow's Rose Bowl game and you Blue Devils better be in the mood.
Voilà, nous écoutions donc une troisième version de In the Mood. La première, celle qui nous servait d'indicatif, était de 1938, c'était l'original. La deuxième était de 43-44 lorsque Glenn Miller était major. Et puis celle que nous venons d'entendre était une version radiodiffusée de 1941. Alors on a demandé à Daniel Nevers, évidemment, à Sim Coppens tout autant, de dire un peu quel était le répertoire de Glenn Miller à cette époque.
Oh, In the Mood est sans doute pratiquement tout le reste du répertoire de l'orchestre de Glenn Miller, et aussi d'ailleurs le répertoire de l'orchestre de Duke Ellington, parce que on savait que certains concerts, notamment de Glenn Miller et de Duke Ellington, retransmis sur ondes courtes, étaient donc diffusés assez loin et étaient captés par les radios allemandes, par les soldats. Et ces deux chefs d'orchestre, il y en a peut-être eu d'autres, intercalaient entre les morceaux de la propagande en allemand. On a quelques documents permettant d'entendre Glenn Miller et Duke Ellington faisant appel à la bonne volonté des soldats allemands, leur disant « cette guerre est une foutaise, laissez tomber, braves soldats allemands », etc., en allemand. Et il se trouve que l'un de ces soldats allemands, qui était ingénieur du son à l'époque et qui préférait nettement le jazz aux transmissions, s'est amusé à en enregistrer un certain nombre sur bande magnétique, puisque l'armée allemande, l'Allemagne d'une manière générale, disposait déjà des bandes magnétiques, ce qui n'était pas le cas dans d'autres pays, à grande vitesse, utilisait donc le matériel de guerre pour enregistrer du jazz et de la propagande, et il a conservé ces bandes, notamment celle de Glenn Miller, également peut-être une ou deux de Duke Ellington, et je crois qu'il y a 2 ou 3 ans, quelques fragments de ces choses ont été édités sur disque compact. Un disque compact que j'aime et que j'étais incapable de retrouver. Donc nous ne pourrons pas l'écouter. Sim ?
Juste un petit mot. Je ne sais pas si vous connaissez l'arrangement, ce qui dure presque 6 minutes, que Duke Ellington lui-même a fait de In the Mood. C'est merveilleux, c'est dommage, si j'avais pensé, j'aurais dû l'apporter. Mais ça prouvait que jusqu'à quel point In the Mood est devenu un trésor national dans le jazz. Thank you.
Voilà, donc nous entendions DB Blues. DB Blues, c'est une composition de Lester Young, jouée ici par Lester, enregistrée pour Aladdin le 20 décembre 1945, un peu en guise de transition vers le témoignage de John Hendricks. John Hendricks est chanteur, il a mis des paroles sur les grands classiques du jazz, on peut dire aussi qu'il est poète, ce ne serait pas trop de le dire. Il avait, en ce 1er juin 1994, 74 ans. Il revenait sur les plages du débarquement. Il avait lui aussi d'ailleurs débarqué. Juste pour la petite histoire, il faut dire que ce DB Blues que nous entendions était lié à l'expérience personnelle de Lester Young. Lester Young avait été enfermé dans ses detention barracks, c'est comme ça qu'on disait pour les prisons militaires. Il avait été réveillé tous les jours pendant un mois, en tous les cas c'est ce qu'on raconte, avec un pistolet sur la tempe. Évidemment, ce n'est pas une expérience simple. Et son style s'en était évidemment ressenti. Il faut dire que Lester Young, grand poète lunaire, était lui aussi en dehors de son monde. Donc le témoignage maintenant de John Hendricks, un témoignage dur, difficile. Un témoignage que nous avons traduit avec l'aide de Christian Cellier, que nous remercions. Et juste pour le comprendre, ce témoignage, il faut savoir que le NACP dont il parlera, c'est l'Association nationale pour l'avancement des gens, des Colored People, c'est comme ça qu'on disait aux États-Unis. C'est une association qui avait été créée pour la défense des droits civiques des Africains-Américains.
Il ne faisait pas partie de la première vague. Le commandement voulait des soldats entraînés et ne faisait pas confiance aux Africains-Américains, du moins à l'époque. Quand il débarque, il découvre des cadavres sur la plage et des snipers, des tireurs isolés embusqués. Comme il le raconte, il nous avait dit, il parlait du commandement, « Keep moving, ne vous arrêtez pas. Et une fois à l'intérieur des terres, vous serez en sécurité. » Alors, dit-il, on a filé comme des flèches. « Keep moving. » Quand on s'est arrêté, on était dans un champ. C'est le paysan qui nous a sorti de la boue. Et on est resté, continue-t-il, 10 jours. On attendait que l'armée s'organise et vienne chercher son monde. Quand ils nous ont retrouvés, ils nous ont amenés à Bernay. Une arrivée en fanfare. Il a été accusé de désertion à cette époque. Il n'était pas le seul, puisqu'on avait perdu un certain nombre de soldats américains. Il raconte lui-même... Parce que, dit-il, je pense que ce fut le début de deux événements importants dans ma vie. Ma relation d'amour avec la France a commencé à ce moment-là, et en même temps, une folie en moi s'est déclenchée qui s'est manifestée de plusieurs façons. Revenir ici a calmé cette folie absolue, née et dans la guerre. En revenant ici, sur les lieux du débarquement, je retrouve intact mon amour pour la France d'une part, et d'autre part, je me sens un peu moins « crazy ». Il dit « ça a renforcé ma haine de la guerre. La guerre, c'est primitif. Platon avait raison quand il voulait faire des artistes des gouvernants, parce que les artistes ne font pas la guerre. Ils discutent et n'en viennent jamais aux mains. Il faudrait peut-être se débarrasser des politiciens et donner le pouvoir aux artistes. » Il dit aussi « les Noirs étaient traités dans l'armée de la manière suivante. Leur situation était juste au-dessus de celle d'esclaves. Comme esclaves, on ne peut aller où on veut. On est enchaîné au maître. L'émancipation n'a pas apporté la liberté. Nous sommes passés de l'esclavage physique à l'esclavage économique. Allez vivre sans argent dans une société où le droit au travail vous est refusé à cause de votre absence d'éducation et on vous refuse l'éducation. Vous êtes physiquement émancipé, mais vous demeurez des esclaves par le jeu des lois économiques plus défavorables aux Noirs. Comme par exemple un taux de mortalité infantile plus élevé. Les gens qui vivent dans des taux d'imminables souffrent plus que ceux qui vivent dans des affluentes aéras. C'est une autre forme d'esclavage que de subir des conditions de travail plus défavorables que les Blancs et de se retrouver dans une armée ségrégationniste au service d'une nation qui se prétend être une démocratie et prétend combattre le nazisme. Cela ressemble à une farce. C'est bizarre, même difficile à expliquer. Une telle stupidité. On a l'air de se payer votre tête. On nous utilise comme ces camions que je conduisais, sauf que je suis sûr que les camions avaient plus de valeur que nous et notre vie. » Plus moyen de tout planter là pour aller chercher de meilleures conditions de vie. J'étais pour ainsi dire un esclave. On ne refusait la liberté de mouvement. Pas question d'aller chercher mieux ailleurs. Mais il est vrai que c'était la même chose pour les soldats blancs. Mais leur armée était meilleure que la nôtre et ils étaient mieux traités que dans la nôtre. Mais eux, peut-être, n'avaient pas besoin de chercher des améliorations. Le racisme de l'Amérique s'était imprimé dans le même type de séparation sociale qui existait dans la société et qui a gagné l'armée. Une armée qui s'était fixée le but de libérer le reste du monde. Pour ce faire, ils ont utilisé des esclaves. C'est bizarre, vraiment bizarre. Quand j'essaye d'expliquer l'inexplicable, quand j'essaye de dire l'indicible, il n'y a pas de mots. Quel mot prendre quand il n'en existe pas? Pas de logique. De quelle logique se servir quand il n'en existe pas? C'est au-delà de toute explication. Finalement, l'armée l'a compris et a intégré les Noirs. Bien sûr, au moment où c'était le plus dangereux. Mais bon, il faut se réjouir des faveurs, d'où qu'elles viennent. Comme artiste dans l'armée, je me sentais complètement en porte-à-faux. Qu'est-ce que je fichais là? Je venais tuer des gens alors que mon but c'était de faire que les gens se sentent bien. Voilà une autre contradiction. La guerre, c'est contraire à toute logique. L'artiste veut vivre en paix et s'entendre avec ses semblables. C'est difficile à expliquer de façon logique. C'est la stupidité extrême des hommes. Nous étions une chose stupide au sein d'une stupidité encore plus énorme. J'ai tiré les leçons après la guerre. Quand je suis rentré aux États-Unis, j'ai décidé à faire tout ce que je pourrais pour que les Noirs puissent jouir des droits que la Constitution leur garantit. Et ceci en commençant par moi-même. Personne ne me priverait de ces droits sans que je me batte. Il faudrait une troisième guerre mondiale pour nous priver de nos droits. C'est une croisade personnelle. J'ai commencé des études de droit pour devenir avocat et offrir mes compétences à la NAACP. Je peux aider mon peuple à devenir libre, capable de vivre comme le veut la Constitution, de la même façon que l'Américain moyen, sans même y réfléchir. Les Blancs, dès qu'il sait qu'il est un individu libre, mais si vous naissez noir aux États-Unis, même si vous lisez la Constitution à l'école primaire, jamais vous ne jouirez des droits qui sont inscrits, parce qu'au Sud, on ne peut même pas aller dans certains endroits s'asseoir et boire un café. Des prisonniers allemands comme von Braun, qui nous a bombardés avec des V1 et des V2, jouissaient de plus de liberté que nous. J'ai continué à me battre en faveur de la dignité humaine. Après ces combats qui ont fait des millions de morts, ce fut le tour de Gandhi de reprendre le serment sur la montagne de Jésus-Christ et de le mettre en pratique. Il a mis les Anglais à la porte de l'Inde et chassé Mountbatten. Tout ça a complètement modifié le visage du Sud et a donné la liberté et la dignité aux Noirs. Ce combat n'est pas fini parce qu'il a réussi. King a été assassiné. Depuis qu'il a été tué, nous avons subi beaucoup de revers. Mais le combat continue. Il a lieu maintenant. Il ne s'arrêtera jamais. C'est en France que j'ai connu le premier signe d'humanité. Il s'agissait de la simple bonté du paysan qui nous a sortis de la boue pour nous abriter dans sa grange, pour nous offrir un abri sec et chaud. L'amour est fait de petites choses. Il nous a offert à manger alors que lui-même n'avait peut-être pas assez. Il est allé déterrer le calvados qu'il avait mis à l'abri des Allemands et du champagne. Il était juste bon, ce paysan. C'était la première fois que je goûtais du calvados. Des petites choses, juste de petites choses, d'être bon avec quelqu'un. J'ai fait mes classes dans le Sud. C'était laid et brutal. On ne pouvait même pas descendre en ville sans se faire rosser et pour certains tuer. C'est cette atmosphère bestiale et vicieuse et l'image du soldat américain frustre qui jouait contre nous dans tous les pays où nous étions. C'était un comportement de sauvage. Cette attitude simple de paysan en France et du reste de la population, ce fut le premier signe d'humanité que nous avons rencontré. Dans l'armée, tous les officiers étaient blancs et racistes. Bonjour était pour eux une insulte. Tout se ramenait à la haine. J'ai vu des photos de lynchage où des hommes portent des enfants sur leurs épaules pour qu'ils voient un noir pendu ou tué d'un coup de pistolet, pour que l'enfant voie. C'est une bestialisation qui continue encore et toujours. Ça disparaîtra, mais on en trouve des séquelles en la personne de Jesse Helms. Nous souhaitons le plus grand succès pour tout le monde, pour la lutte pour la dignité et la liberté. Mm-hmm.
Après le témoignage de John Hendricks, nous écoutions ce thème de Lester Young, en fait, beaucoup plus que de l'auteur du standard des Swedish Things du 20 décembre 1945, une façon avec des notes de dire l'indicible, avec une poésie sombre, éclairée par l'humour et l'ironie provenant du fait que Lester ne prononce à aucun moment la mélodie du thème, qu'il tourne tout autour par l'intermédiaire de l'harmonie, des accords. Il y a là quelque chose qui est une sorte de recréation et en même temps une façon de nous signifier ce qu'il avait vécu pendant sa période militaire, qui rejoint quasiment la manière dont John Hendricks lui-même l'a vécu. Bref, il y a une espèce de réunion ici qui permet peut-être d'appréhender cette période. Et donc, Sim Coppens, qui était là, lui aussi, se prononce sur cette version de Lester Young de The Swedish Things. Daniel Nevers donne quelques indications. Et ensuite, nous écouterons, puisque Daniel Nevers y fait référence, la version Savoy de 1944, qui précède le fait que Lester Young parte sous les drapeaux, comme on dit d'habitude.
Tout ce que je voudrais dire, que le morceau qu'on a entendu a été considéré pendant longtemps et peut-être encore comme son plus grand solo.
Absolument.
En tous les cas, je sais que j'ai lu souvent que c'était un des disques de jazz qui a eu l'influence le plus énorme sur d'autres solistes, même d'autres instruments, une espèce de décontraction assez extraordinaire.
Oui, je voulais simplement ajouter qu'il en existe une autre version, parce que celle-ci, comme vous l'avez dit, il l'a enregistrée en octobre 1945, après le séjour à l'armée, et un an avant, en 1944, il avait déjà enregistré un These Foolish Things, qui est d'ailleurs un thème plus ancien, une chanson qu'on connaissait ici dans les années 30 sous le titre de Ces Petites Choses. C'était même Jean Sablon qui l'avait créé en version française. Et dans la version de 44, il joue parfaitement le thème, on reconnaît parfaitement la chanson, sans les paroles naturellement. Dans cette version de 45, il ne laisse en quelque sorte que le squelette, que les harmonies de la chose. C'est assez étonnant. C'est ce qu'un an peut changer chez un individu, chez un homme, de la sensibilité de Lester Young. Thank you.
Là, nous écoutions une deuxième version, en fait, dans l'ordre chronologique. La première version réalisée par Lester Young pour Savoy en 1944. Il y avait Johnny Guarnieri au piano, Billy Butterfield à la trompette, un très beau son de trompette. On voit bien que Lester ici était très près du thème par rapport à ce qu'il a réalisé en décembre 1945. Ces deux versions montrent de quelle manière il peut y avoir comme ça émergence d'une poésie et d'une poésie rare, parce que du côté de Lester Young, il y avait aussi cette façon de nous dire ce qu'il avait donc vécu pendant ces années de ce mois plutôt de détention. Thank you.